France Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Bérangère Bonte.
Bonsoir à tous. Notre Europe est mortelle. Elle peut mourir. Les informés vont se concentrer ce soir sur ce portrait plutôt alarmiste fait par le chef de l'État de l'Union européenne. Ce matin, défense, immigration, prospérité, souveraineté, discours de lancement de campagne pour Valérie Ayer ou discours d'un président français en vue de l'agenda stratégique des 27. Quelle réaction des différentes oppositions? Paul Barcelone du service politique de France Info était à la Sorbonne et il est là ce soir avec nous. Pour évoquer tout ça. Au menu également, les CRS ont-ils le droit d'intervenir dans l'enceinte d'un établissement étudiant? On reviendra sur l'évacuation de manifestants pro-palestiniens à Sciences Po la nuit dernière. Et puis 5 euros de péage pour entrer à Venise si vous ne restez pas dormir. Première tentative au monde de ce type pour lutter contre le surtourisme et ses ravages. On parle de tout ça avec nos informés qui sont ce soir. Jérôme Cordelier, chef du service France au point, qui est aussi l'auteur d'un ouvrage qui va sans doute nous éclairer pour notre première partie. Après la nuit, ces chrétiens qui ont reconstruit la France et l'Europe. C'est chez Calman Lévy. Claire Planchard est la rédactrice en chef Information Générale du groupe EBRA. Et Bruno Cotterès, chercheur CNRS au CEVIPOF et prof à Sciences Po. Bonsoir et bienvenue à tous.
Bonsoir.
1h49 de discours à la Sorbonne. Emmanuel Macron appelle donc à un sursaut des 27 pour bâtir une Europe puissance et une défense crédible. Le mot qui revient beaucoup chez les commentateurs, je vais y arriver, c'est dramatisation.
Paul Valéry disait au sortir de la Première Guerre mondiale que nous savions désormais que nos civilisations étaient mortelles. Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir. Elle peut mourir, et cela dépend uniquement de nos choix. Mais ces choix sont à faire maintenant. Parce que c'est aujourd'hui que se joue la question de la paix et de la guerre sur notre continent, et de notre capacité à assurer notre sécurité ou pas.
Paul Barcelone, donc vous y étiez pour France Info. Ce ton, quand même.
Oui, ton presque martial, discours alarmiste, dramatisation évidemment pour Emmanuel Macron, et le moment est singulier puisqu'on est à quelques jours, un mois et demi à peine des élections européennes, le 9 juin prochain. Et ce discours était d'ailleurs attendu, ça s'est senti surtout sur la fin. D'abord un discours très long, 2 heures extrêmement dense. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas l'élan de fraîcheur de 2017, mais un discours qui était attendu dans son camp comme le potentiel déclic, tournant de la campagne, parce que la campagne du camp macroniste patine, il n'y a pas de liste, pas de programme. Et en termes de programme, je crois que le président de la République, ce matin, il s'y est collé avec ce discours très, très dense. Mais effectivement, le ton martial et la dramatisation des enjeux, l'extrême droite aux portes du pouvoir, l'extrême droite partout en Europe, les nationalistes qui seraient prêts à quitter l'immeuble européen sont... C'était ses mots aussi.
Et alors vous dites très attendu par son équipe de campagne, mais attention, l'Élysée dit, ça n'est pas un discours de campagne. Question que je vais poser, que je vais vous poser à tous les quatre. Au final, c'est un discours programme pour Valérie Ayer ou le discours d'un président de la République qui parle aux 27 et qui va faire des propositions en juin?
Non, officiellement, ça n'est pas un discours de campagne. Et c'était intéressant de voir ce que disait l'Élysée avant même ces 2 heures de discours.
Mais de ce que vous avez entendu,
Macron,
c'est ça qui est intéressant aujourd'hui.
Il va se placer au-dessus de la mêlée, c'est l'agenda de souveraineté d'un chef d'État européen, d'une France puissante, d'une France influente en Europe. Après, sur la forme, tout est discutable, évidemment, et j'entendais les Républicains, par exemple, d'Éric Ciotti cet après-midi, qui disent on va saisir l'ARCOM parce que le temps de parole est à imputer
Manon Aubry pour les filles
à Renaissance,
chose,
voilà, la même chose, de dire les frais engagés aussi par l'État sur ce discours sur l'Europe ce matin d'Emmanuel Macron sont à imputer au compte de campagne de Renaissance. Donc il y a une bataille, évidemment, sur la forme et le fond, mais je crois surtout, pour vraiment répondre à votre question, qu'Emmanuel Macron et son entourage, l'Élysée, ont fait extrêmement attention de ne pas convoquer les artifices du discours de campagne, de ne pas citer Jordan Bardella, de ne pas citer le Rassemblement National, de ne pas être en frontal, si j'ose dire, là où, à l'évidence, quelquefois, il s'est fait plaisir, passez-moi l'expression, avec quelques allusions, évidemment, à ce qui se joue en ce moment et au scrutin du 9 juin.
Mais il est un peu présent. Claire Planchard, quel regard vous avez, vous, quand on dit discours de campagne? Il y a des propositions, et puis il y a des commentaires. Discours de campagne ou discours d'un chef d'État?
Non, mais c'est toute l'ambiguïté, effectivement, de la position du président qui, depuis des mois, en fait, a énormément cadré, en fait, la stratégie de l'exécutif dans la campagne sur l'Ukraine, sur cette dramatisation de l'enjeu existentiel, quasiment, de cette élection. Dans son entourage, on disait passer d'un vote d'humeur à un vote existentiel. On voit vraiment dans cette façon de poser les enjeux, en fait, c'est une continuité. Donc, effectivement, en tant que chef de l'État, il a pris un ascendant sur cette campagne. Valérie Ayer a du mal à émerger. On a vu Gabriel Attal, en tant que chef du gouvernement, avait aussi du mal à émerger dans cette campagne. Et dans son entourage, il disait, j'arrive bientôt, vous en faites pas. Il y a l'espoir de provoquer le même déclic qu'en 2019, où la campagne de la candidate ne démarrait pas et qu'il avait réussi par son intervention, en première ligne. Oui. Voilà, Nathalie Loiseau, mais c'est aussi dangereux. Donc là, effectivement, on voit qu'il les donne des propositions.
Mais alors justement, est-ce que c'est les propositions, en fait?
Il faut mobiliser. L'idée, oui, c'est de mobiliser le socle de ses électeurs, en fait.
Une autre façon de se poser la question, c'est de se dire, ces propositions, parce qu'il y en a quand même une série, est-ce que on va les retrouver au cœur de la campagne de Valérie Ayer? C'est une autre façon de poser le sujet. Qu'est-ce que vous retenez comme proposition?
C'est difficile de retenir des propositions parce que, en dehors du moment où le chef de l'État a parlé d'initiatives en matière d'Europe de la défense, il y a beaucoup de propositions qui étaient des propos extrêmement généraux, de grands objectifs dont on sait très bien qu'ils ne pourraient être atteints que moyennant au moins une décennie, peut-être deux décennies, donc quelque chose qui dépasse même l'avenir politique d'Emmanuel Macron. Donc c'est très difficile de transformer ça en proposition concrète.
Il y a quelques éléments assez concrets quand il parle d'immigration, mais je pense que
je me demande si le propos du discours c'était au fond des propositions concrètes. Est-ce que le propos du discours n'était pas d'abord et avant tout de manifester un Emmanuel Macron qui revient sur la figure centrale d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire lui il se situe du côté des forces de la vie contre la mort. Alors, il a beaucoup utilisé cette métaphore. L'Europe est en danger de mort. Il y a différentes morts qui peuvent être, qui concernent l'Europe. La mort violente avec la Russie, la mort lente avec le déclin. Voilà, différentes figures. Et Emmanuel Macron qui se met toujours, d'une certaine manière, en position d'être celui qui est du côté de l'énergie, de la renaissance. C'est le nom de son mouvement politique. Force de proposition, audace, celui qui a fait preuve d'audace avant tout le monde. Tout le monde disait, c'était impossible. Et finalement, lui, il est arrivé à le faire. Est-ce que c'est pas ça le propos essentiel du discours, de faire renaître Emmanuel Macron, d'une certaine manière, dans ce deuxième mandat qui a tellement de mal à trouver sa direction, et au passage, peut-être d'aider Valérie Ayer en impulsant quelque chose du point de vue de ceux qui sont très sensibles à cette figure d'Emmanuel Macron, le sauveur.
La renaissance d'Emmanuel Macron.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Claire Planchard est là pour le groupe Ebra, Bruno Cotterès pour le Cevipof, Jérôme Cordelier pour le Point et Paul Barcelone pour France Info. Jérôme Cordelier, vous avez la main. Bruno Cotterès proposait la renaissance d'Emmanuel Macron plus globalement. Vous retenez quoi de ce discours? Qu'est-ce qui vous frappe?
C'était un discours, c'est pas inintéressant. Hein. Je trouve que c'était un bon article pour
quand
la revue
ça,
politique
général.
Internationale. Vous voyez, il y a plein de choses. Souvent, en plus, ce qui est un problème maintenant de communication, surtout chez un homme aussi brillant que Emmanuel Macron, c'est qu'il dit des banalités en prenant un air inspiré, quoi. Donc ça, c'est à mon avis, au point de vue communication.
Vous avez un exemple en tête?
Même, par exemple, quand il parle des grandes puissances à nos portes, qui sont débridées et qui ne respectent pas les ordres du monde, enfin des choses comme ça. Donc, et puis surtout, le gros problème, je trouve, c'est que c'était un discours sans âme. Et donc, c'est un discours sans âme. Donc, c'est un discours qui n'a aucun souffle, qui n'est pas inspiré, justement. Et quand on parle d'Europe, et surtout quand on dit, par exemple, il dit « Notre Europe est un trésor que nous avons reçu en héritage et que nous allons transmettre », mais il ne parle jamais d'abord, il dit constamment « Notre Europe ». Notre Europe, vous savez, c'était le titre du livre posthume de Robert Schuman, qui est un des pères fondateurs de l'Europe, auquel d'ailleurs...
Qui n'apparaît pas, pour autant.
Qui n'apparaît pas, d'ailleurs, Alors, on cite George Steiner, Camus, Jacques
Paul
Delors,
Valéry,
que des personnalités un peu consensuelles, si vous voulez. Mais on parle de notre Europe pendant près de 2 heures, et on parle même pas, il n'y a pas un mot sur les fondateurs de l'Europe, Assis de Gasperi, Konrad Adenauer et Robert Schuman, qui ont été quand même l'inspiration. Avant Jacques Delors, il y avait ces gens-là, quoi. Et donc, et qui sont quand même le socle de l'Europe qu'on connaît aujourd'hui avec, avec la CECA. Et donc, c'est ça le problème, et c'est le problème d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois et un temps incertain, c'est le manque total d'inspiration. Et puis,
il y a pourtant une séquence presque philosophique sur nous sommes la civilisation qui a sans doute inventé le doute et le questionnement sur soi, la
comment,
culture de l'aveu.
Comment,
il essaie de prendre de la hauteur.
Mais comment peut-on parler, par exemple, de l'humanisme européen sans faire, justement, ne serait-ce qu'une allusion à ces fondements chrétiens de l'Europe qui ont été... Enfin, je veux dire, dans les quatre fondateurs de la CECA, il y avait trois chrétiens, trois catholiques investis. Et donc,
ça compte, important. Ça, pour vous.
C'est
le sous-titre de votre livre. Hein, après
c'est l'armature, l'armature de l'Europe. On peut se voiler la face mais on peut au moins l'évoquer dans un discours que l'on veut un peu, un discours fondateur. Et en plus, ça aurait du panache. Il n'y a pas une seule fois le mot âme. Je veux dire, il cite Jacques Delors ou Georges Steiner, il aurait pu citer aussi Georges Bernanos. Enfin, je veux dire, ce qui est quand même aussi un écrivain fondamental de l'Europe et de l'âme de l'Europe.
Paul Barcelone ?
Oui, il a tenté de donner une âme, je crois, à son discours en appelant à une forme d'audace. Bon, qui était probablement aussi destiné à son propre camp et une manière, Claire le disait tout à l'heure, de réveiller aussi son camp, de provoquer un sursaut dans son camp, de mobiliser ses supporters.
Est-ce que ça peut être le cas ? On parlera du contenu hein, dans
en
un
tout
instant.
Cas, ce qui est sûr, c'est que ce discours, c'est le coup d'envoi pour les troupes d'Emmanuel Macron de la campagne et il suffit de décrocher son téléphone dans les deux SMS à des conseillers ou à des ministres ou à des élus de tout poil pour dire « ça y est, il nous a donné le go ». On a presque une ébauche de programme, on n'en avait pas jusqu'à maintenant. On attend toujours la liste, mais ça y est, la campagne peut-être démarrer. Et au moins, il a jeté les bases de ce à quoi ça doit ressembler. Et d'ailleurs, il va continuer, même indirectement, de faire campagne. Parce que la séquence mémorielle qui arrive, des commémorations du débarquement avec 3 jours de discours, 5, 6, 7 juin, va évidemment lui offrir une tribune qu'aucun autre candidat n'aura.
Claire Planchard, sur ce démarrage de campagne, est-ce que c'est parce que quand on parle d'audace, c'est aussi
d'audace pour vaincre la timidité. Il
ouais, c'est
un
ça.
Mot,
mais Valérie Ayé, je ne sais pas comment elle a pris ce message.
C'est un message implicite.
Oui, après les sondages le montraient, même récent, Valérie Ayé a du mal à émerger. Les gens l'identifient pas. Alors effectivement, elle va faire des meetings, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce poids de la figure présidentielle sur le camp de l'exécutif, hein, sur cette liste Renew, qui fait que elle avait du mal. La liste était effectivement pas constitué. Ils ont tardé. Il y a eu des atermoiements. On sait au moment du remaniement pour trouver une figure qui allait incarner cette liste. Donc effectivement, là, ça peut effectivement lancer une dynamique avec une séquence de communication très orchestrée. Donc ça peut. Et puis je pense que ça envoie un message. L'idée, c'est de dire vous électeurs pro-européens macronistes, regardez, nous restons fidèles à ce que Emmanuel Macron incarnait très fortement en 2017 avec son discours de la Sorbonne 1, c'est qu'il se veut fondamentalement pro-européen. Avec un projet très construit, il a fait valoir son bilan aussi, hein, quand même, sur les choses qu'il a pu accomplir. Alors effectivement, l'Europe est loin d'être soudée. Enfin, il dit notre Europe aujourd'hui, on voit les clivages très forts, mais il peut amener peut-être. Enfin, je pense que c'est son souhait d'amener des électeurs qui pourraient être tentés par la liste de Glucksmann, des gens qui auraient été déçus ou qui auraient été un peu désintéressés par la campagne, de se dire bah peut-être qu'il y a quelque chose qui se joue là du programme qu'on avait aimé en 2017. Allons, enfin en 2019 pour les européennes, mais en 2017 au moment de la présidentielle. Bruno Cotrès, il y a matière dans ce qu'on vous avez entendu ce matin, à aller chercher, à élargir un peu le socle actuel, les 12, 13, pardon, non, les 17, parce que c'est Raphaël Glucksmann qui est plutôt à 13, les 17% actuels, et notamment des abstentionnistes.
Un peu, bien sûr, mais le propos en même temps est tellement général que pour aller hameçonner, attirer à nouveau des électeurs de centre-gauche déçus d'Emmanuel Macron, ça va être quand même un peu compliqué. Il y a une autre dimension qui fait quand même une grande différence avec la précédente élection européenne de 2019. Emmanuel Macron maintenant est en poste depuis 7 ans, et donc lorsque des électeurs de centre-gauche, il y en a toujours dans son socle. Il n'a pas complètement perdu tout crédit auprès des électeurs de centre-gauche. Mais effectivement, quand il le regarde maintenant, ça n'est plus comme en 2019. Il a eu l'occasion de les décevoir. Il y a eu la réforme des retraites. Il y a eu le débat et la loi sur l'immigration. Il y a eu les déclarations récentes sur les chômeurs, sur ceux qui occupent des logements sociaux. Enfin, voilà, tout un tas de signaux qui n'ont pas été nécessairement bien reçus dans un électorat de gauche. Donc, c'est un peu compliqué de les faire revenir à nouveau, sans compter qu'ils connaissent très bien l'engagement pro-européen du chef de l'État, qui n'est nullement une surprise aujourd'hui pour personne. Voilà, donc il n'y a pas aujourd'hui dans les contenus quelque chose qui concrètement peut venir faire revenir des électeurs de centre-gauche.
Alors, en lien avec cette idée que l'Europe est mortelle, il y a ce gros sujet de la défense qui est très présent, Paul Barcelone. On va pas dire qu'il y a pas de surprise absolue. Il y a la volonté de construire une Europe de la défense, mais d'aller plus loin, d'aller plus vite. Ça, c'est quand même très présent.
Ouais, l'Élysée disait la Sorbonne, c'est le lieu où Emmanuel Macron a eu en 2017 une intuition, là où il a parlé de souveraineté, où il a osé parler de souveraineté pour la première fois. Et d'ailleurs, son entourage revendique le fait d'avoir maintenant complètement diffusé cette idée de souveraineté et qu'elle soit désormais reprise assez largement dans la classe politique, au-delà d'ailleurs du seul camp d'Emmanuel Macron. Oui, l'essentiel des propositions concrètes qu'il a formulées aujourd'hui, une dizaine au total, se situe sur le plan de la défense, avec la volonté d'imposer une défense crédible, de rendre de la souveraineté, que l'Europe produise de la poudre, pourquoi pas un bouclier antimissile, il dit peut-être sur le bouclier antimissile. Donc il y a la volonté, à l'évidence, de construire cette espèce d'arsenal militaire. Il dit pourquoi pas créer une académie militaire européenne.
Un emprunt commun.
Pour acheter du matériel,
comme pour le COVID, d'une certaine façon,
se fournir en armement. Donc il y a la volonté pour Emmanuel Macron que l'Europe soit une forme de puissance sur le même pied d'égalité que les États-Unis, que la Chine d'un autre côté, dans le contexte géopolitique qu'on connaît, la guerre en Ukraine, les menaces sur Israël, l'Iran qui se situe au seuil de la possession de l'arme nucléaire, évidemment. Tout ça alors que, et c'est son expression, les règles du jeu mondial ont changé.
On se demandera peut-être juste après le fil info pour comment ça a pu être perçu par les partenaires européens de la France, parce qu'il se place de fait au cœur du débat sur une problématique qui concerne évidemment les 27.
20h, 21h, France Info, les informés, Bérangère Bonte.
Avec ce soir Jérôme Cordelier du Point, Claire Planchard du groupe Ebra, Bruno Cotrès du Cevipof et Paul Barcelone de France Info. On va parler de défense et on va notamment écouter parmi les réactions François-Xavier Bellamy, la tête de liste à droite, qui réagissait sur ce point précis, l'investissement dans une industrie de défense. Écoutez.
Nous devons investir ensemble dans une industrie de défense qui permette de faire que notre continent soit demain plus robuste et plus autonome pour assurer sa sécurité. Et c'est d'une certaine façon exactement le contraire qui aura été fait. J'ai été rapporteur pour le Fonds européen de défense qui permet de mutualiser des investissements dans l'industrie de défense. Le budget de ce fonds devait être de 13 milliards d'euros. C'est par la décision du gouvernement français au Conseil que ce budget a été diminué à 8 milliards d'euros. Ce coup de rabot, c'était évidemment le signe d'un manque d'ambition. Je suis, moi, révolté par la contradiction entre les paroles qu'on entend aujourd'hui d'Emmanuel Macron et les actes.
C'est vrai que c'est assez représentatif des critiques qui ont été faites. Et tout ce qui a été promis depuis 7 ans, il en resserre une partie et les faits ne sont pas là, Bruno Cotrès.
Oui, c'est vrai que les références étaient...
Sur la défense, c'est
voilà,
c'est
les références frappant. Étaient multiples. Aujourd'hui, du chef de l'État, son discours de la Sorbonne de 2017. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu de près les choses, parfois, il a un peu exagéré, on va dire, sa force et sa capacité à réaliser un certain nombre d'objectifs. On peut penser à la régulation de l'intelligence artificielle, par exemple, même aux questions écologiques. Et sur la défense, c'est vrai que c'est en même temps un thème sur lequel le chef de l'État a toujours été assez clair. Il a toujours affiché une forte ambition en matière d'Europe de la défense, et non plus pas du tout une surprise de l'entendre sur ce thème-là. Par contre, c'est vrai que ce que François-Xavier Bellamy dit est avéré, ça met un peu le chef de l'État en porte-à-faux, et surtout du point de vue du regard que les Européens portent sur le discours d'aujourd'hui, il faudra voir comment ils le comment il l'interprète, puisque la position de la France est souvent perçue comme évidemment très importante. Lorsque le chef de l'État français parle de l'Europe, les autres Européens écoutent toujours avec beaucoup d'attention, mais est-ce qu'ils vont pas avoir tendance à dire c'est Emmanuel Macron, c'est-à-dire c'est des paroles. Raphaël Glucksmann hier l'a taclé sur cette question-là en disant ça sera encore une fois des paroles. Est-ce que c'est comme ça que les partenaires allemands vont le vivre, notamment, ça sera très important de suivre quelles vont être les réactions des exécutifs européens et notamment de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne.
Voilà, de ce qu'on a vu passer, le chancelier Scholz dit les pistes sont plutôt les bonnes.
Oui, il dit il y a plutôt de bonnes propositions dans ce discours. Maintenant, il faut que ça trouve, en clair, hein, je résume le message du chancelier, il faut que ça trouve sa traduction concrète sur l'Europe de la défense. C'est un pis-aller, enfin, c'est pour Emmanuel Macron, c'est une vieille rengaine, d'ailleurs de plusieurs couleurs politiques, pas seulement lui. Et effectivement, il y avait déjà fait référence en 2017. Ce qu'il dit ce matin, c'est que trop longtemps l'Europe a cru bon de laisser sa protection et la sécurité dans les mains, notamment des Américains, de l'OTAN, et qu'il est temps aujourd'hui d'assumer une défense européenne robuste, propre, que l'Europe soit capable en elle-même de défendre ses propres frontières, ce qui rejoint toute la tirade du chef de l'État sur l'Europe continent-monde, capable de se défendre par elle-même et capable d'être souveraine chez elle. C'est en ça qu'il propose, je disais référence tout à l'heure, une académie militaire de formation, un emprunt commun, voilà, pour construire vraiment l'arsenal militaire de défense.
Alors, autre réaction qu'on va écouter, Manon Aubry, tête de liste LFI, elle, sur le décalage aussi, alors pas sur la défense, mais sur notamment sur des aspects sociaux plutôt, entre les mots et les actes, écoutez.
C'est une Europe de l'arrogance et une Europe des inégalités plutôt qu'une Europe puissance et prospérité qui nous a présenté. Il a utilisé en effet plein de fois le mot puissance et il a finalement déploré pendant 2 heures les effets de l'impuissance qu'il a construite depuis 7 ans, depuis son dernier discours de la Sorbonne. Pardon, mais sur la question de la puissance, quel est le bilan d'Emmanuel Macron? Ces dernières années, ce sont des industries, des usines qui ferment et dans le même temps, il signe à tour de bras des accords de libre-échange avec le monde entier pour faire venir des produits des quatre coins du monde. Moi, j'ai le sentiment vraiment qu'à la fin, Emmanuel Macron, c'est un menteur. C'est une forme d'arnaqueur, un peu comme sur Tinder, l'application de rencontre. Il vous fait des belles promesses, et puis une fois qu'il a réussi à vous avoir, il disparaît.
Vous êtes d'accord, au-delà de la formule sur Tinder?
Non, c'est trop, c'est trop sévère. C'est pas que des belles promesses, c'est quand même un discours programme aussi. Hein. Moi, ce que je déplore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le manque d'inspiration, le manque d'âme.
Puissance, oui.
Et que tous les gens les millions de gens qui ne vont pas aller voter, quand on leur propose un discours comme ça, un discours politique comme ça, ben c'est sûr que l'abstention sera encore plus forte. Mais en même temps, il y a quand même... Il y a aussi quand même un côté programmatique, sachant qu'en plus... C'est difficile, il est sur une ligne de crête difficile, c'est-à-dire que c'est à la fois, il y a le bilan et puis il faut lancer sa campagne. Donc il est évidemment tributaire de ce qu'il a fait ou de ce qu'il n'a pas fait, et en même temps il faut qu'il... En fait, le problème de ce discours, c'est l'angle en fait, c'est comme un papier pour un journal.
Il n'y a pas d'angle, c'est ça?
Il y a trop d'angle en fait, il y a trop de public. C'est-à-dire qu'il s'adresse aux électeurs, il s'adresse aux 27, il y a un bilan, il y a la construction de l'avenir. Donc tout ça fait un discours fleuve et un discours rubiscube, en fait.
Alors, ça s'appelle un papier fourre-tout. Hein.
Voilà. C'est ça. Et on embrasse notre rédacteur en chef.
C'est l'ADN. L'Europe fait partie de son ADN, et je rejoins ce que disait Jérôme. L'Europe fait partie de son ADN depuis 2017. En 2017, déjà, il y avait des drapeaux européens qui flottaient dans ses meetings, etc. Il a toujours voulu se poser en figure européenne. Et en même temps, pour paraphraser Jérôme et uniquement Jérôme, sa campagne, elle ne décolle pas, et ses électeurs aujourd'hui, ils sont plutôt aux abonnés absents. Donc il y a une forme de paradoxe pour lui à résoudre, et c'est pas certain que le discours de ce matin, qui était quand même pas très grand public, suffise à combler ce retard-là.
Dans les opposants, il nous reste 30 secondes pour
pour dire un mot quand même de Jordan Bardella, parce qu'évidemment, lui aussi a programmé un discours sur l'Europe, une conférence de presse cet après-midi, sauf que ça, alors c'est un peu bizarre, ça s'est terminé
alors, conférence de presse,
en queue de poisson, très court, il n'a même pas répondu aux questions.
Non, il a fait lui aussi son discours sur l'Europe, avant une session de questions-réponses avec des journalistes. Il y avait Audrey Tison du service politique de France Info qui m'a raconté ça, et puis Jordan Bardella est parti avant même de prendre la moindre question, laissant la parole à Alexandre Loubet, qui est député et son directeur de campagne pour ces européennes, qui lui-même a été interrogé par Audrey Tison, à qui il a dit écoutez, Emmanuel Macron ce matin à la Sorbonne, il n'a pas répondu à des questions, il n'a pas pris de questions. Eh bien, Jordan Bardella n'en prend pas non plus, et ce sera très bien comme ça. Jordan Bardella qui participera enfin à un débat sur les élections européennes dans une dizaine de jours. Une manière peut-être de clore le débat.
Bon, eh ben, on l'écoutera évidemment avec attention. Merci beaucoup, Paul Barcelone.
Avec plaisir.
Nous, on va refermer cette page européenne. On ira faire un tour à Sciences Po et puis à Venise.